Je suis honoré de vous rencontrer.
Quelle est votre peur la plus profonde, jeune homme?
Ça vous dérange pas que... J'essaie.
Non, n'essaie pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. Pas différent, juste différent dans ton esprit. Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris.
D'accord, faisons comme ça. Ravi de t'avoir revu, l'ami.
Salut à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode de Leviosa Podcast. Aujourd'hui, on va encore parler d'entrepreneuriat avec Carole Dananché, qui est la fondatrice de Canel.io. Je vous invite à aller visiter le site. Ça s'appelle K-A-N-E-L-E et.io. Donc voilà, Carole va nous parler de son expérience d'entrepreneur, les succès comme les échecs et un peu tous ses tips qu'elle a mis en place au quotidien pour pouvoir gérer ses équipes. Voilà, je vous souhaite une bonne écoute et je vous retrouve à la fin du podcast. Bonjour Carole.
Bonjour Romain et bonjour à tous.
Comment ça va aujourd'hui?
Ça va bien, fin de journée, un peu fatiguée mais tout va bien.
Bon, tant mieux. Aujourd'hui tu es là parce que on a envie d'échanger avec toi sur les sujets d'entrepreneuriat. Tu es la fondatrice de Canel, dont tu vas nous parler un peu plus tout de suite après. Juste un petit récapitulatif comme ça, Canel, quelle est son ancienneté et combien d'employés vous avez aujourd'hui?
Alors Canel, c'est l'histoire d'une boîte qui a pivoté. Donc on travaille sur Canel officiellement depuis un an et demi maintenant. Suite à notre pivot, on est 13 dans l'équipe. Et en revanche, ça fait 3 ans que je me suis lancée dans l'aventure entrepreneuriale avec mes 3 autres cofondateurs, avec lesquels on est toujours la même équipe.
Qu'on salue d'ailleurs avec plaisir.
C'est ça, salut à tous.
Ok, du coup, vous êtes combien aujourd'hui?
Donc du coup, on est 13. On est les 4 cofondateurs plus 9 salariés dans la boîte.
Et du coup, Canel, c'est quoi?
Alors du coup, Canel, c'est quoi? Canel, c'est une solution qu'on a pensée en B2B. Et c'est un petit peu le PowerPoint de la vidéo. L'idée, comment est-ce qu'on en est venu à lancer Canel? Je ne sais pas si c'est le moment de raconter un peu notre pivot.
Vas-y.
Et ben, je raconte. Donc... On a lancé, donc, les 4 cofondateurs, une première solution qui s'appelait All Vibes, qui était une sorte de TripAdvisor en vidéo. L'idée, c'était de permettre à n'importe quel consommateur, au restaurant, à l'hôtel, etc., de pouvoir faire des avis de consommateurs dans un format plus immersif, plus réaliste, plus authentique. Et en fait, on a travaillé sur ce premier projet un peu plus d'un an. On a... eu un certain succès, on a réussi à avoir une communauté de plusieurs milliers d'utilisateurs, etc. Mais on ne va pas se cacher, le B2C en France, ce n'est pas si facile, notamment parce que les investisseurs, en tout cas français, ne sont pas méga friands, que réussir à créer une grosse communauté, ben, ce n'est pas si facile que ça. Et en fait, au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal d'entreprises, des personnes en fait, de notre entourage ou qui découvraient All Vibes, qui nous disaient qu'en fait, ils avaient besoin de ce type de solution pour pouvoir faire des vidéos pour leur entreprise.
D'accord.
Et donc, quand ils disaient ce type de solution, ça veut dire une solution super facile d'utilisation, qui se fait sur téléphone, qui ne prend pas de temps et qui arrive à sortir des vidéos par n'importe qui. Et en fait, quand on a su ça et qu'on a eu plusieurs demandes dans ce sens-là, eh ben, on a creusé la piste du B2B et on a pris le temps de s'extraire un petit peu d'All Vibes, donc de notre TripAdvisor en vidéo, de parler avec plein de personnes qui bossaient dans des entreprises sur ces problématiques, donc à la com, au RH, à la transformation des entreprises, etc. Et ils nous ont tous dit qu'ils avaient un besoin énorme de faire de la vidéo et de la faire pas trop cher, facilement, depuis mobile, que ce soit accessible à n'importe qui. Et c'est comme ça vraiment qu'on l'a pensé comme le PowerPoint de la vidéo.
Et du coup... Je t'interromps 2 secondes, mais qu'est-ce qui les empêche de prendre un portable, de juste se filmer le truc? Moi, c'est ça que
tu comprends pas.
Que je comprends pas.
Ouais. Mais c'est une très bonne question. Globalement, aujourd'hui, les entreprises, elles ont plusieurs problématiques quand elles font des vidéos. La première, c'est effectivement faire une vidéo qui va être qualitative. Et pour être qualitative, c'est pas uniquement la qualité de l'image que tu vas filmer tout seul avec ton smartphone. Voilà, qualitatif, ça veut dire en fait, dès le départ, ok, avoir un bon scénario, avoir une bonne structure dans ton scénario pour garder un rythme, savoir quel plan filmer, à quelle distance filmer les plans, si tu interviews quelqu'un, à quelle distance, comment tu fais du cadrage, quelle est la lumière, quels sont tous ces éléments-là. Et oui, en fait, tu es capable, avec Canel, d'avoir un super bon rendu que tu as filmé avec ton téléphone, mais parce qu'on va bien au-delà. En fait, on aide sur toutes les étapes de la vidéo l'utilisateur. Donc, on va l'aider avec des scénarios, on lui propose des scénarios qui sont modulables, on l'aide après à la captation. En fait, en prédécoupant le scénario et en lui disant juste, suis le guide, quoi. Plan 1, fais ça, plan 2, fais ça. Tout ça dans l'app. Et après, le montage, qui est aussi un peu casse-gueule pour des personnes qui s'y connaissent pas, etc., se fait automatiquement dans l'app. Et tout ça aux couleurs qui ont été paramétrées en amont de l'entreprise. Donc, ce qu'on entend par ces couleurs, c'est son petit logo, sa police, ses couleurs, son jingle, ses musiques corporate, etc. Et ça, c'est un peu comme un masque PowerPoint qu'on vient appliquer. Et donc, tout ça, ils peuvent le faire en 15 minutes sur Canel, de A à Z, là où, en général, ça leur prendrait des heures en filmant tout seul avec son téléphone, en utilisant après des logiciels de montage classiques, en sachant pas comment scénariser sa vidéo en amont. Et après, on va un petit peu au-delà, au sens où, comme c'est vraiment un produit entreprise, on permet aussi aux entreprises de gérer la production de vidéos de manière collaborative. Ce qui fait que si tu veux en fait, qu'il y ait 50 personnes dans la boîte qui créent des vidéos, tu peux avoir un administrateur qui va gérer, qui va modérer les vidéos, qui va pouvoir les revoir. Tu vas pouvoir gérer plusieurs chartes graphiques et donner aux bonnes personnes les bonnes chartes graphiques, etc. Donc c'est vraiment un outil pensé entreprise et qui gère toutes les problématiques au-delà de la simple captation vidéo, quoi.
Ah, franchement, c'est... Je vais rebondir sur un truc que tu as dit que je trouve qui est hyper important. C'est qu'on a tendance à croire que faire du montage vidéo, tourner des vidéos, c'est simple. Parce que, notamment avec les smartphones et tout, on s'est tous improvisés avec Instagram, on a mis 2-3 filtres, on s'est tous improvisés photographe professionnel, faire des vidéos qu'on a cru stylées et tout. Juste pour ceux qui auraient un doute de ce que je suis en train de dire, regardez des vidéos de tech française et US. Vous allez voir la différence sur YouTube. Le matériel n'est pas le même, la mise en scène n'est pas le même. Il y en a, clairement, ils sont professionnels. Vous regardez, en France, la plupart du temps, c'est mal fait, mal monté, mal coupé, parce que justement, on a tendance à se dire que c'est facile à faire et qu'on ne peut pas faire appel à des professionnels. Je trouve ça hyper intéressant, la solution que vous offrez, vraiment, parce que... Non, mais c'est vrai que... Moi, je ne l'ai pas utilisé. Clairement, c'est pour ça que je te pose toutes ces questions.
Mais ça ne saurait tarder.
Mais oui. Clairement, c'est quelque chose qui me manque aujourd'hui. Bon, après, ma femme est dans l'audiovisuel aussi, donc c'est un peu plus facile
pour moi. Oui, tu connais un petit peu le sujet.
Mais voilà, donc je connais un peu le sujet et je vois. Et c'est plus d'une fois que j'entends ma femme qui rentre et qui me dit qu'on lui a dit encore au boulot que oh, ça va, le montage, c'est pas compliqué. Enfin, quand c'est fait par un professionnel, tu vois la différence.
Clairement, clairement.
Non, mais ok.
Et nous, on essaye en fait de... Alors, non pas de... Je sais que parfois, on nous dit, mais est-ce que vous tuez le job des professionnels de l'audiovisuel ? Non, parce qu'en fait, nous, on permet de répondre à tout un tas de formats vidéo qui, de toute façon, ne sont pas faits par les professionnels parce que c'est rentable. Ils ne vont pas se déplacer pour aller faire une vidéo à 200 balles. En général, c'est à peu près ça le... Enfin,
c'est le prix à la journée qu'ils prennent, ça.
Voilà, exactement. et du coup, en fait, nous, on permet d'autonomiser les collaborateurs d'une entreprise sur ces sujets-là, et on veut vraiment leur dire, ok, demain, le format de vidéo est en train de prendre tellement d'importance que vous avez envie de pouvoir, comme vous faites un PowerPoint, pour n'importe quel sujet, pouvoir faire une petite vidéo facilement. Et donc, nous, on leur permet vraiment de faire ça. On leur dit pas, tu vas devenir producteur de cinéma. C'est pas ça l'idée non plus. C'est pour ça qu'on dit on ne détruit pas non plus des jobs dans l'audiovisuel, parce qu'au contraire, ils peuvent se concentrer. Enfin, globalement, comment ça se passe, c'est qu'ils vont se concentrer sur des produits à plus haute valeur ajoutée. Et nous, on permet aux utilisateurs de faire par eux-mêmes tous les petits formats et toutes les petites animations, ce genre de choses que les professionnels n'ont même pas spécialement envie de faire, quoi.
Je pense que l'étape, ce serait, si tu as des gros besoins de montage, au bout d'un moment, tu vas pas passer toute ta vie via Canel et tu vas prendre quelqu'un en interne qui va te faire le boulot. Ça me paraît la suite logique. Après, ça dépend de la taille des besoins.
Mais... Bien sûr. Ouais. Après, il y a quand même une tendance. On en a plusieurs de nos clients ou des prospects avec lesquels on discute qui ont des personnes en interne qui font ça. La seule difficulté par rapport à ça, donc un studio interne, des alternants, des pros... il y a pas mal de choses comme ça en ce moment, enfin qu'on voit nous. Mais la grosse difficulté, c'est que souvent, il y a plusieurs personnes dans l'entreprise qui ont envie de produire du contenu et ils n'ont pas envie de tout mettre sur les épaules d'une seule personne. Et en fait, dans l'idée vraiment de se dire que c'est le PowerPoint de la vidéo, c'est comme si demain tu demandais à une personne dans l'entreprise de produire les PowerPoint pour tout le monde. Tu vois, tu te dis, mais c'est pas raisonnable. Les gens ont envie de pouvoir faire leur contenu solo au moment où ça les arrange, à l'heure qu'ils veulent, etc. Et donc, en fait, on veut vraiment offrir cette possibilité-là. Là où, quand tu as un studio interne, bah, tu es dépendant de ton studio, de la charge de travail de ton studio, et puis il y a des temps d'attente, etc. Donc voilà, c'est un peu la tendance qu'on voit de se dire, non, moi, je ne suis pas un communicant, nécessairement, mais je veux un outil qui me permette de faire du contenu vidéo très facilement, sans être dépendant de personne.
Ok. Et aujourd'hui, c'est quoi les scénarios à peu près que vous proposez, si tu peux nous en dire ça, deux, trois, genre, mais sans rentrer dans le détail.
Oh, oui, clairement. Enfin, dans l'idée, nous, on a beaucoup commencé avec des scénarios autour des différents formats d'interview, parce que c'était un besoin très, très fort qu'on voyait dans les entreprises. Donc, tu veux faire une interview un peu classique, tu veux faire une interview à la Combini, tu veux faire une interview d'équipe. Et ça, pour plein de besoins, que ce soit vraiment pour la com interne. Tu sais, c'est un peu remplacer les newsletters à l'ancienne où ils faisaient le portrait du jour. Bon, bah là, ils ont envie de faire ça, mais dans un format vidéo, pour de la marque employeur, pour interviewer des experts pour qu'ils partagent bah, leurs expertises sur certains sujets. Donc ça, c'était un des formats avec lesquels on a pas mal commencé et qui est très demandé. Après, on fait aussi quelque chose qui est très utilisé, c'est des vidéos d'événementiel. Ouais. Donc en fait, tu veux faire des petites vidéos de séminaires, tu veux montrer la vie interne de ta boîte. Je veux dire une bêtise, hein, mais ok, c'est Noël, tu vas faire une petite vidéo de Noël, c'est la fête des... c'est la Chandler, c'est Pâques. Enfin, il y a plein de choses, plein de formats un peu événementiels, un peu fun. Après voilà, on multiplie un petit peu les formats en fonction de ce qu'on voit, des besoins qu'on nous remonte, des tendances qu'on observe sur les réseaux, et puis bah là on sort aussi des scénarios un peu plus en type motion design où tu veux mettre tes chiffres clés, bon bah tu rentres tes petits chiffres et puis automatiquement ça va te faire des petites animations sympas pour pouvoir voilà, partager sur les réseaux ou autre quoi. Voilà, donc globalement on fait évoluer ça assez régulièrement.
D'accord. Et aujourd'hui, dans le process, quand une personne vous soumet une vidéo ou plusieurs bouts de vidéo, quel est le pourcentage d'intervention humaine ?
Zéro.
Zéro ?
Ouais, on ne traite pas les vidéos, en fait. Tout est vraiment automatisé. Ça nous est arrivé d'aider des clients de temps en temps, mais c'est vraiment totalement en dehors du process. Tout est absolument fait sur l'app, de manière automatique, par l'utilisateur lui-même. Il ne repasse pas par nous. Et en fait, du coup, ça permet de vraiment sortir ta vidéo en 15 minutes. C'est toi qui l'as fait, tu la sors et t'en fais ce que tu veux. Et par exemple, je te donne un exemple concret. On a déjà eu des clients comme Engie sur des événements qui filmaient des petites vidéos, hop, chartées et postées en temps réel sur Twitter. 5 minutes après avoir fini son tournage, quoi.
Très efficace.
Voilà. Donc vraiment, nous, notre vision de ce produit-là, c'est de se dire on n'est pas une agence qui va en fait te faciliter, on est vraiment un software, on est vraiment un logiciel. Ouais. Ouais.
Okay. Et du coup, par rapport à ce que tu disais, comme quoi vous surveillez les tendances et tout ça, si y a beaucoup, on a cette mode depuis quelques années, tous les challenges et tout ça. Si demain, tu as un nouveau challenge qui apparaît et vous pouvez faire quelque chose, en combien de temps vous pouvez mettre ce scénario dans votre app? Je me souviens juste de toutes les boîtes à une époque qui faisaient le challenge où plus personne ne bougeait là.
Ouais, le mannequin challenge. Ouais, alors nous, on sort régulièrement des nouveaux scénarios. Après, tout dépend de la roadmap, quoi. En fonction de la priorité de... Si on se dit, waouh, c'est vraiment un scénario, il faut le sortir maintenant, on sera capable de bousculer notre roadmap et de le sortir très vite. Si c'est un scénario qui vient compléter notre bibliothèque qui s'enrichit régulièrement, bon bah ça on essaie d'en sortir tous les mois de toute façon des nouveaux, donc voilà, en tout cas ça met pas 6 mois non plus.
Cool. Ouais. Moi je pose la question parce que souvent moi tu sais je suis dans l'agilité tout ça, et c'est intéressant de voir ce cycle de
bien sûr. Ouais.
Ok. Du coup toi d'un point de vue personnel, J'ai plusieurs questions en une, mais tu répondras dans l'ordre que tu veux.
Ça marche.
Qu'est-ce qui t'a amené à entreprendre? Qu'est-ce que tu tires de cette expérience autant positif que négatif. Et voilà, on verra pour le reste après.
Ça marche. Alors, ce qui m'a amené à entreprendre, je pense que bon, c'est toujours un mix de différentes choses. Que ce soit des choses personnelles, des choses que tu as observées de manière professionnelle, etc. Je pense que dans le fond, ça va faire un peu con de dire ça, mais mes parents étant architectes indépendants, j'avais pas le modèle de salariat. Donc déjà, j'étais assez étrangère au modèle du salariat. Et quand j'ai commencé à être salariée, ça m'a fait un peu bizarre. Parce que c'était tout simplement pas ce que j'avais observé dans mon enfance. Donc je pense qu'assez jeune, je me suis projetée dans l'entrepreneuriat. Et le milieu des startups m'a intéressée relativement au début de mes études. Après, j'ai fait un premier stage dans une startup, je ne dirai pas le nom. Stage qui a été assez difficile. Difficile. Mission assez dure. Gestion de litiges, ce genre de choses. Donc c'était...
C'était dur à cause de ce que tu faisais ou de l'ambiance dans la startup?
C'était dur à cause de ce que je faisais.
Okay.
Et en fait, je pense que pour des mauvaises raisons, non pas pour l'entrepreneuriat, mais pour un job un peu traumatisant, je me suis un peu éloignée, en tout cas sur cette partie-là de ma carrière, de l'entrepreneuriat. J'ai été dans le secteur du luxe. Je pense que c'était un peu le rejet de « Ok, les startups, en fait, c'est le bordel, allons vers quelque chose de très, très structuré. » Et je me suis analysée après coup en disant « Ouais, en fait, t'as voulu te rassurer en allant dans un autre secteur. » J'ai évolué un peu là-dedans, à Paris, et puis après j'ai bossé chez Vuitton à Londres. Et en fait, je le mentionne parce que vraiment pour moi, bien que ce ne soit pas du tout ce à quoi on peut attendre de sentir une fibre entrepreneuriale dans le secteur du luxe, mais j'ai adoré mon expérience là-bas et en fait, j'ai vraiment eu la chance d'être dans une équipe avec un management, en tout cas à l'anglo-saxonne, où j'étais très très vite responsabilisée.
8 ans, t'as fait en Angleterre et en France ?
Ouais, j'ai fait 2 ans en France avant et 1 an en Angleterre.
Et le management était différent ?
Très très différent.
De l'un à l'autre ?
Très différent, okay. Ouais.
Parce que j'ai eu je connais quelques personnes qui bossent chez LVMH.
Ouais.
Et le retour est plutôt bon de façon générale sur le management là-bas, même en France.
Ouais. Après, ça dépend des boîtes d'LVMH, ouais, pardon.
Justement, c'est ce que j'allais dire. Ouais.
Franchement, tu sais, c'est comme dans toutes les boîtes. Hein. Ça dépend de ton manager, ça dépend de ton équipe. Il y a des divisions qui sont plus stratégiques que d'autres. Mm-hmm. Donc, si tu es dans les divisions qui font le plus d'argent, tu as plus de pression. Tu as énormément de facteurs différenciants qui peuvent faire que deux personnes dans la même boîte, dans une des boîtes d'LVMH, il y en a qui adorent et puis d'autres qui souffrent. Donc, bon, ça, c'est... Moi, j'ai vraiment pas de leçons à donner sur ça. C'est juste qu'en tout cas, moi... dans cette équipe dans laquelle j'ai atterri en Angleterre. C'était tellement humain, c'était tellement... Voilà, je me suis vraiment sentie mais projetée dans la gestion des projets que j'avais là-bas. On m'a fait énormément confiance, très vite. C'était un management, tu sais, très... en gros, ce qu'on m'a dit très vite en arrivant, c'est « Ok, si tu fais des trucs bien, c'est pour toi. Si tu fais des trucs pas bien, c'est pour toi aussi. » Donc, c'était très responsabilisant. Et puis très vite, j'ai mené des projets, ça se passait bien. Et en fait, c'est là un peu que j'ai retrouvé ma fibre entrepreneuriale, où je me suis dit, mais en fait, j'adore mener des projets, j'adore voir l'évolution de ces projets et de voir qu'à la fin, parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Mais j'adore cette sensation et c'est ça qui m'excite en fait professionnellement dans ce qu'on peut attendre de sa vie pro, quoi. Et donc en fait, c'est suite à cette expérience-là où je me disais, en fait, c'est ça que je veux faire. Je veux monter un projet, je veux monter quelque chose. Et j'ai retrouvé la fibre et je ne veux pas la lâcher, quoi.
T'as passé combien de temps dans le salariat en tout et pour tout ?
J'ai passé 3 ans.
3 ans ?
C'était pas énorme.
Et c'est après, c'est là que t'as fait le wagon ?
Ouais. Ouais, exactement. Donc en fait, je suis rentrée de Londres. Donc ils m'ont proposé un job. Et donc je leur ai dit que du coup, en fait, je voulais devenir entrepreneur. Donc ils l'ont très bien pris. Honnêtement, ils m'ont même soutenue. J'ai même eu des news... longtemps après de mon équipe chez Vuitton UK qui prenait des nouvelles, etc. Donc, je trouvais ça hyper cool.
Génial.
Et c'est là qu'après, effectivement, je suis rentrée à Paris en me disant « Ok, je veux monter un projet. » Je ne savais pas encore tout à fait quoi. J'avais plusieurs idées qui se bousculaient et puis j'ai fait le wagon. Et puis, Et puis après, bah, j'ai pitché l'idée du premier projet dont je t'ai parlé, All Vibes, le TripAdvisor en vidéo. Et je l'ai pitché là, et c'est là qu'a commencé l'aventure, quoi.
Ok. Et je vais rebondir sur un truc que tu as dit, c'est que ça ne peut pas forcément correspondre à tout le monde, le milieu du luxe, etc.
Mm-hmm. Ouais.
On en parlait hors enregistrement tout à l'heure, mais bon, comme tu sais, j'ai fait beaucoup d'entreprises. Et un des trucs par lesquels je choque souvent les gens, c'est qu'en fait, je considère que c'est autant mon rôle de faire la critique de l'entreprise pour laquelle je postule que l'entreprise de faire la critique du candidat. Je ne sais pas si je suis très clair dans ce que je dis, mais en gros, c'est à toi de savoir ce qui te convient et si oui ou non, assez rapidement, tu dois continuer dans un endroit. Pour moi, une personne qui continue dans un endroit où elle sait pertinemment qu'elle ne va pas rester...
Ou en tout cas, qu'elle ne s'épanouit pas.
Qu'elle ne s'épanouit pas, qu'elle n'est pas bien et qu'elle reste là-dedans indéfiniment. Des fois, tu as des trucs qui t'empêchent de faire les choses.
On n'est pas tous libres, mais...
C'est ça, on n'est pas tous libres à ce niveau-là, malheureusement.
Ouais.
Mais si tu as la possibilité d'aller ailleurs, que tu n'es pas bien dans une boîte et que tu y restes, tu fais la mauvaise chose.
Ouais, je partage assez ce que tu dis parce qu'en fait, souvent, il y a une question de peur. Enfin, moi, je l'ai vu. Moi, ce qui m'étonnait toujours quand j'ai décidé de monter ma boîte, c'était que tout le monde me disait « Ah, mais qu'est-ce que t'es courageuse !» En fait, j'avais du mal à comprendre parce que je me disais « Mais... Enfin... Non ! Enfin, je monte un projet, c'est cool. Oui, c'est pas stable, mais... Qu'est-ce qui est tout à fait stable de toute façon ? Après, je m'étais un peu préparée financièrement, etc., pour voir venir le truc et me dire « Ok, je ne vais pas mourir... » littéralement dans les 3 mois à venir si on fait pas d'argent, ce genre de choses.
En France, on a un bon système.
Voilà.
Donc, si pour peu qu'on ait le chômage, etc., ça peut nous permettre de monter notre boîte, de se faire de la trésorerie pendant quelques temps, sans se verser de salaire, etc. Donc, ça peut être un avantage. Mais d'ailleurs, combien de temps t'as passé, si je peux te poser la question, sans te payer ?
Eh bien, écoute, j'ai commencé à me payer en début de cette année. Mais oui, la bonne nouvelle, c'est que je me paye. Donc j'ai passé, on va dire, 2 ans et demi. 2 ans et demi,
ouais.
À peu près.
Mais du coup...
Mais avec des... Bien sûr. Avec,
c'est ce qui fait peur à la plupart des gens.
Oui, bien sûr. Et ça, je le comprends. Et je pense que... Enfin, pour moi, il y a un petit peu deux choses, quoi. C'est soit on entreprend en ayant... déjà travaillé, en ayant été salarié quelque part et en ayant le droit en fait de bénéficier du chômage, parce que on a le droit d'être entrepreneur et de monter une boîte, et donc ça, il n'y a aucun souci. Parce que je sais que j'ai aussi eu souvent la question de te dire, mais en fait, est-ce que tu as le droit de bénéficier de ton chômage quand tu montes une boîte ?
Bah, évidemment.
Voilà, mais je sais que ce n'est pas clair pour tout le monde.
Ouais.
Donc oui, et ça, effectivement, bon, bah, même si c'est un début de carrière, donc on n'avait pas des salaires délirants, moi, mon chômage n'était pas... pas très extravagant, hein. Mais bon, c'est sûr que ça permet quand même de voir venir. Et puis après, je pense que c'est chouette si on a réussi à prévoir un petit peu le coup, soit en ayant mis un tout petit peu de côté si on peut, soit ce que font énormément d'entrepreneurs en faisant des petites missions de freelance à droite à gauche, en faisant d'autres petites choses à côté pour tout simplement réussir à joindre les deux bouts, quoi. Mais oui, après, c'est sûr que sur la question financière, on ne va pas se mentir, c'est pas facile. C'est pas facile. Après, c'est un risque. C'est un risque à prendre de se dire, ok, est-ce que l'aventure me plaît suffisamment ? Est-ce que je m'épanouis ? Est-ce que je teste des choses ? Est-ce que je monte un projet qui tout simplement me branche et me dynamise quand je me lève le matin ? Moi, j'ai fait la décision de dire, bah oui, je gagne même aujourd'hui, je pense, la moitié moins que ce que gagnent la plupart de mes amis à ce stade. Mais moi, en tout cas, ça...
Mais tu fais ce qui te plaît.
Voilà, je fais ce qui me plaît, j'adore. Et il y a aussi des perspectives de grandir aussi beaucoup derrière.
Ouais.
Voilà, si ça marche.
Mais c'est un peu, le leitmotiv, c'est que quand tu entreprends, tu espères toujours mieux.
Bien sûr.
Et réussir à faire un peu mieux. Je pense que c'est ça qui est important. Et autre chose, faut que je récupère le fil de mes pensées. Mais ouais, on pourrait croire que. Parce qu'il y a des gens, quand ils vont nous entendre, ils vont dire ouais, bah, ça va, si t'es payé par Pôle emploi, alors tout est rose. Non, la vie est pas rose, on est payé par Pôle emploi, ça nous permet de vivre. Quand on peut se lancer en entrepreneuriat et qu'on a la chance de pouvoir bénéficier de ce système, que d'ailleurs le président Macron a facilité. Mais. Ça veut dire faire la croix sur certaines choses. Comme tu l'as
Bien
dit,
sûr.
le salaire est beaucoup plus faible. C'est un salaire de subsistance, encore une fois. C'est pas un salaire normal.
Bien sûr.
Tu pars pas en vacances ou tu pars beaucoup moins loin.
C'est sûr.
Tu pars beaucoup moins souvent. Tu fais beaucoup plus de sacrifices au quotidien. Et des fois, dans une vie de couple ou autre, ça peut être difficile. Ouais, faut le prendre en compte. On ne dit pas que non plus que c'est facile. Et c'est pas du tout ce
Ouais.
que tu es en train de dire, je
Non,
sais.
c'est en vrai c'est dur. Mais en fait, à mon sens, moi, ce que j'ai vécu et aussi c'est aussi peut-être parce que j'ai une boîte qui commence à marcher, donc enfin j'en suis fière, je suis contente et ça me fait voilà, je suis fière d'en être arrivée là. Mais oui, c'est dur. Oui, effectivement, ça peut créer des problèmes de couple. Oui, on vit un peu plus chichement. Et on voit les autres autour de nous, surtout à nos âges, qui commencent à avoir enfin, avoir plus d'argent et à profiter. Et c'est vraiment en plus les années où voilà, on en profite, on fait des voyages, on fait ci, on fait ça, etc. Quand on a la chance de pouvoir le faire, hein. C'est pas le cas non plus de tout le monde. Mais voilà, moi j'ai trouvé que c'était un risque à prendre, faut en être conscient, faut l'accepter d'avance, parce que de toute façon, il y a très peu de chances qu'avant 6 mois, 1 an, dans le meilleur des cas, on puisse commencer à faire du chiffre et à se payer. Parce que faire du chiffre, c'est une chose, se payer, c'est une deuxième chose. Bon, c'est dur, mais je pense que si vraiment on est passionné par ce qu'on fait, ça compense largement. Ça compense largement. À mon sens, en tout cas.
Et du coup, tu parlais tout à l'heure du fait de se sentir bien dans une entreprise, etc., en tant que salarié, d'avoir un bon management. Tu as cet avantage d'avoir eu cette expérience du salariat, ce qui n'est pas le cas de tous les patrons, et qui des fois, je trouve, est fort dommage parce qu'on ne se rend pas compte, on n'arrive pas à se mettre à la place de nos employés. C'est
C'est
très
clair, ouais.
problématique. Et. Je trouve, enfin, même ça devrait être presque obligatoire, quoi. On devrait tous avoir connu ça avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Je remarque aussi, petite dérive avant d'aller vers la question que je voulais te poser, que tu as des parents qui étaient indépendants. C'est le cas de beaucoup d'entrepreneurs d'avoir des parents qui sont entrepreneurs eux-mêmes ou indépendants. Je trouve ça hyper intéressant de voir quelle est la corrélation de personnes qui ont des parents qui entreprennent par rapport au nombre qui entreprennent derrière.
En fait, je pense que, enfin, je pense, c'est vrai. Après, c'est pas le cas de tous, bien sûr, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent d'entendre des entrepreneurs qui disent, oui, effectivement, mes parents étaient entrepreneurs indépendants, etc. Je pense que ça joue sur la réduction de la peur, en fait. Et moi, si tu veux, j'ai vu mes parents. Et depuis que je suis petite, j'entends les discussions de ah, cette année, on n'a pas fait un super chiffre. Ouh là là, on va pas aller en vacances. Et l'année d'après, ah tiens, on a bien marché cette année, etc. Et en fait, c'est pas que tu t'habitues à l'incertitude, mais tu t'habitues aux fluctuations et au fait que ce soit pas choquant de savoir qu'il y a des années qui seront meilleures que d'autres et qu'il y a des années, ce sera un peu compliqué. Et en fait, du coup, je pense simplement que tu appréhendes ça avec beaucoup plus de sérénité que quand tu as été habitué à un truc très très carré, avec très peu d'incertitudes.
Je pense aussi que c'est le cadre. C'est-à-dire que toi, tu dis à tes parents que tu veux monter ta boîte,
Aussi,
ils
t'as
vont te
raison.
dire, mais vas-y.
Bien sûr, mais t'as complètement raison.
Alors que voilà, t'as d'autres parents, ils ont été salariés toute leur vie, ils vont te dire, ah, non, mais attention, tu connais les risques,
Suis
ta
d'accord.
retraite, pense-y.
Ouais, je suis d'accord. Effectivement, moi je pense que le jour où j'ai annoncé à mes parents que je voulais monter une boîte, ils m'ont regardé, on fait ok, c'est cool. Et puis voilà. Et puis après, ils m'ont soutenu. Ils sont super fiers. Ils sont ouais, vraiment dans le soutien.
Te donne des bons conseils et
Ouais,
tout.
ouais. À chaque fois que je signe un client, ils font la fête avec moi. Enfin bon, c'est des choses bêtes, mais c'est vrai que je me suis pas du tout sentie découragée par une réaction de mes parents, là où je sais que ça arrive fréquemment. Et en fait, ça fait ressentir l'angoisse encore plus forte que quand on a quelqu'un en face de soi qui dit « bah ouais, ok, c'est cool, vas-y, puis tu verras bien ce que ça donne ». Donc c'est sûr que ça ne met pas dans les mêmes dispositions. Ouais.
C'est clair. Ça serait intéressant de me faire une
étude. Faire une petite enquête.
Je pense que ça doit exister.
Certainement, ouais.
Et du coup, fin de mon arc dérivatif, qu'est-ce que... Donc ouais, je parlais du fait que te sentir bien en tant que salarié dans une entreprise, c'est hyper important. Qu'est-ce que toi, tu fais au sein de Canel pour que tes salariés se sentent bien?
Ouais.
Ça, c'est la question piège. Est-ce que tu les fouettes?
Est-ce que je les fouette?
Voilà, qu'est-ce que tu fais pour qu'ils se sentent bien? Qu'est-ce que demain, tu penses que seront tes problématiques à ce niveau-là? Est-ce que tu as eu des problématiques que tu ne pensais pas avoir aussi? Ça peut être intéressant. Et voilà.
Alors, moi, j'adore ces sujets. Alors, je pense que quand tu deviens entrepreneur, tu ne sais pas ce qui va te plaire le plus. Ça, c'est un truc que j'ai un peu trouvé... assez drôle en fait, parce que tu te lances en te disant tiens, je vais aimer ça, et en fait tu te découvres par exemple manager et tu te dis mais en fait j'adore le management, ou pas, tu vois, ça dépend des personnes. Et nous, je pense que bon, en tout cas les quatre fondateurs, on partage, nous on est très proches, on a vraiment pris le temps et on a tout fait pour consolider nos relations de fondateurs, et première étape, je pense que ça se voit. Et en fait, quand tu rentres dans une boîte où tu sens que je vais pas dire l'équipe dirigeante, c'est pas comme, j'aime pas le voir comme ça, mais le noyau dur, si tu veux, parce que ça se construit autour de ton équipe de fondateurs. Quand tu sens que c'est des gens qui s'entendent bien, qui s'aiment bien, qui se respectent, déjà, je pense que ça influe sur les valeurs que tu véhicules dans ton entreprise. Donc ça, c'est le premier truc. Je pense que nous-mêmes, on se respecte beaucoup. Par exemple, on se parle jamais mal ou ce genre de choses qui arrivent. On l'a vu dans pas mal de startups qu'on connaît autour de nous. On se dit oulala, mais ils vont péter ceux-là. Ils savent pas se parler, ils savent pas communiquer. Tout n'est pas rose, bien sûr. On n'est pas d'accord sur tout, mais on a trouvé un équilibre pour réussir à se dire les choses et à fréquence régulière pour jamais laisser la cocotte minute monter et déborder. Et donc, je pense que ça, c'est le premier truc. Après, le deuxième truc, c'est effectivement. Moi, j'ai recyclé dans ce que j'ai aimé et pas aimé dans mes expériences de salarié, même si j'ai encore une fois pas été dans le salariat pendant 15 ans. Mais bon, en 3 ans, t'as quand même le temps de voir des. T'apprends déjà pas mal de choses. Et vraiment, je pense que je me suis posée, et on s'est tous posés en tant que fondateur. Pour l'instant, il y a que les fondateurs qui sont dans des rôles de management, mais ce sera amené à évoluer. Et on s'est vraiment posé en se disant, ok, quel manager j'ai envie d'être. Je pense qu'on a fait cet effort-là, pas juste de prendre le rôle en se disant « Ok, faut que je le prenne parce que je n'ai pas le choix », mais vraiment de demander « Ok, qui est-ce que j'ai envie d'être ? Comment j'ai envie que mon équipe, elle évolue ?» Et je pense que déjà le...
Comment vous avez fait à ce moment-là ?
Je pense que ça a été déjà un travail personnel de chacun. Ouais. Et puis, on se partage nos tips, en fait, aussi. Tu vois, quand on voit... je te donne un exemple très concret. Moi, je manage l'équipe sales, donc l'équipe des commerciaux, qui s'appelle les client heroes chez nous. Très vite, je me suis dit, ok, en fait, c'est un job où on est quand même beaucoup dans l'itinérance, c'est-à-dire que t'enchaînes des rendez-vous, t'enchaînes des coups de fil, etc. Il y a même des jours, ça arrive presque qu'on ne se voit pas, parce qu'il y en a un qui est en démo l'après-midi, l'autre le matin, etc., etc. Et je me suis dit, pour moi, j'ai besoin de garder un contact régulier et un temps privilégié pour chacun. Et donc, dès le début, je me suis dit, ok, en fait, je vais leur faire un one-to-one tous les vendredis. Là où au départ, les gens me disaient, ouais, mais attends, c'est vachement long. Si tu passes 45 minutes avec chacun tous les vendredis, tu bosses pas, en fait, ton vendredi, quoi.
C'est de l'investissement sur tes salariés.
Exactement. Et en fait, je me suis dit, mais attends, déjà, on va voir si on continue par la suite. Mais moi, j'ai besoin de savoir comment ils vont. J'ai besoin de savoir comment ils se sentent, s'il y a des choses que je vois pas. Parce que clairement, je suis pas, je ne vois pas tout. Donc, je voulais vraiment me dire, ok, je veux qu'ils sentent que je suis là, s'ils ont besoin. Je ne les micromanage pas, mais je veux qu'ils aient un temps privilégié pour pouvoir me raconter là où ils sont bloqués. Leur succès, quand ils en sont fiers, c'est aussi un moment de pouvoir célébrer chaque succès. Voir leur feedback. Ils me font, du coup, en fait, je leur demande énormément de feedback sur... Surtout, que ce soit quand ils sont arrivés sur leur onboarding, sur les process qui sont en place, sur le rôle de, enfin, leur rôle, qu'est-ce qu'ils en pensent, est-ce qu'ils pensent qu'ils peuvent aller plus loin, enfin, voilà, et c'est un peu le moment où ils sont carte blanche, 45 minutes, où je suis que dispo à eux, je regarde pas mon téléphone, je fais rien, je traite pas mes mails, et du coup, je trouve que, en fait, j'ai spoté des choses à ces moments-là que j'avais pas forcément vues, et des super feedbacks qui ont fait évoluer, je vais presque dire, la stratégie de Canel sur certains points, quoi. Tu vois, donc voilà, donc ça par exemple c'est un sujet où je me suis dit je vais tenter, c'est pas quelque chose que j'ai vu ailleurs, mais je me disais en fait sinon j'ai peur de perdre le lien avec eux, okay. Donc voilà, donc ça a été une première chose tentée, puis après c'est vraiment je pense beaucoup de transparence, leur faire des feedbacks complets, et ce que j'entends par là c'est le moindre truc qui est bien je leur dis, le moindre truc qui est pas bien je leur dis aussi. Toujours avec bienveillance, mais encore une fois, toujours dans l'idée d'essayer d'éviter de laisser pourrir une relation. Si tu veux, quelqu'un fait quelque chose trois fois et puis ça te saoule, et puis à un moment donné, tu sais, t'es exaspéré et la personne te saoule. C'est un peu comme ça qu'on est dans la vraie vie, et puis c'est comme ça qu'ils sont les managers dans leur vie pro, ouais. Parce qu'ils sont humains, quoi. Et donc j'essaye vraiment de tout dire et de leur demander de tout me dire aussi, si à un moment donné je les ai... je leur ai dit un truc qui leur a pas plu, si je les ai ignorés à un moment donné ou ils auraient voulu que je les écoute, ou ce genre de choses. Voilà, je dis, on se dit tout. On met toujours carte sur table, tous nos petits sujets, et on laisse rien venir envenimer la relation, quoi.
Ok. Et alors, par rapport à ça,
ouais.
Deux choses, moi, là-dessus que j'aimerais savoir. Comment tu fais pour gérer, t'as pas peur des faux négatifs ? Déjà, c'est-à-dire que... Et comment tu gères, et c'est lié, comment tu gères ta posture du coup de patron ? Mm-hmm. Parce que tu as cette posture un peu pour un salarié où il arrive dans une entreprise, t'es la patronne.
Ouais.
Ouais, voilà, faut être un peu attention. Et en même temps, tu leur demandes des feedbacks honnêtes, mais ouais. Ils savent pas vraiment s'ils peuvent ou pas, tu vois.
Mais je pense qu'en fait, je me suis... En ce qui me concerne, hein, après je veux pas parler... au nom des autres cofondateurs, chacun un peu différent aussi, mais j'ai jamais voulu me mettre dans une posture de patron. Mmh. Tu vois ce que je veux dire ? Je me suis jamais dit, oh là là, c'est moi la patronne, il faut qu'il me respecte.
Ouais, mais sans même que toi tu le fasses. Parce que là, vous êtes 13, mais
ouais.
À un moment, je pense que automatiquement ça arrivera. Ouais. Tu auras des gens qui vont te voir, ils vont te mettre d'eux-mêmes sur un piédestal inatteignable. Tu vois ce que je veux dire ?
Ouais, je comprends. Après, tu vois, je repense à... Enfin, je te donne un exemple chez Vuitton, qui était qu'il y a eu plusieurs CEO pendant mon époque. Moi, mm-hmm. Je suis arrivée juste après le départ d'un CEO qui avait été très aimé. Et en fait, tout le monde disait, mais en fait, on avait l'impression qu'il était vraiment accessible. Il était le CEO de Louis Vuitton. Donc, quand même, ouais. Grosse boîte, hein, on va se dire. Et il avait toujours un petit mot, on me disait, il connaissait les gens, toujours un petit papotage dans l'ascenseur, ce genre de choses. Et il ne se mettait pas dans cette position de supériorité. Et en fait, moi, je crois beaucoup que finalement, la position de management, elle vient de par le fait que les gens considèrent qu'on est vraiment meilleur dans ce qu'on fait. Et c'est pas tant dans le fait de vouloir prendre une distance, d'être au-dessus. Moi, je ne le vis pas comme ça, en toute transparence. Après, on verra quand j'aurai peut-être d'autres problématiques. Hein. Quand le jour où on sera 50, bah, peut-être que ouais, je serai amenée à revoir. Je le souhaite. Je serai peut-être amenée à réfléchir à ces sujets-là. Mais aujourd'hui, je suis plutôt dans une relation où je fais partie de l'équipe. Mmh. Je travaille comme tout le monde. Après, oui, je suis dans une situation de management. Je les guide, je les aide. J'en connais un peu plus qu'eux. De fait, parce que un peu plus d'expérience sur la boîte et sur ces sujets-là, je me nourris aussi de ce qu'ils m'apportent. Encore une fois, j'ai pas la science infuse sur tout. Chacun a sa pierre à apporter à l'édifice. Et en toute transparence, c'est pour ça que je te dis, parfois, je prends des feedbacks où je me dis, mais en fait, c'est une super idée. Et en fait, je me nourris aussi de ce qu'ont apporté mes salariés, quoi. Tu vois, je pense que personne ne sait tout. T'as une vision, etc., mais... C'est aussi en écoutant ce que tu as autour de toi, en voyant des choses que toi, peut-être, tu ne vois pas, qui peuvent t'amener à être un bon manager et un bon leader, tu vois. Et je pense qu'au contraire, chaque personne dans la boîte a quelque chose à apporter, et encore plus à ce stade-là, où c'est des employés qui sont quand même incentivés au capital, etc. Ils ont envie, comme moi, que la boîte, elle marche. Donc quand ils me disent des trucs, je les écoute. Parce qu'ils ont, ils ont tout leur droit de vouloir me dire... Après, je suis d'accord, je suis pas d'accord, je réfléchis, je leur explique quand je suis pas d'accord, pourquoi je suis pas d'accord, mais je pense que c'est une richesse énorme de faire appel à tous les cerveaux qu'il y a dans la boîte et tous les esprits critiques qu'il y a dans la boîte. Donc moi, je suis très très ouverte là-dessus. Après, ça doit être aussi une histoire de personnalité et de différentes choses, mais voilà, j'ai pas le sentiment de devoir me mettre dans une posture de supériorité, encore une fois, pour manager mon équipe. Quoi.
Non, moi, c'est pas du tout ce que, ouais. De toute façon, ce que je te disais. C'est plus... je sais que des fois, la situation t'y met. Quoi. Mmh. Et c'est vrai que pour avoir parlé avec quelques amis, c'est des fois une situation difficile où il est difficile d'en sortir parce que justement, toi-même, t'as pas eu conscience d'être rentré dans cette situation parce que t'as tout fait pour ne pas y être. Mais en tout cas, très agile, tout ce que tu viens de dire. Agile mais avec un grand A. Parce que transparence, accessibilité, amélioration continue, c'est des valeurs d'agilité.
Ouais. Et bravo. Ouais. Et on, honnêtement... Enfin, on est plus heureux en tant que boîte comme ça.
Ouais, bah, de toute façon, le but, c'est... Ouais. Je me demande toujours, comme j'ai été dans une entreprise où le patron, il avait 15 procès au prud'homme.
Ok.
Et je me suis toujours demandé comment le matin, il se levait et quand il se regardait dans la glace, comment il se sentait, quoi.
Ouais.
Je vois pas comment tu peux être heureux, tu vois. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est être heureux dans ce que tu fais, c'est hyper important. C'est pas... Et encore une fois, c'est là que tu vas voir les valeurs de l'entreprise, je pense. Et pourquoi est-ce que tu fais ça? Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que tu fais ça, Carole? Et voilà, c'est... Tu vas avoir le patron qui va voir son but, bah, c'est faire du fric. Le reste, tu n'as rien à faire. Les employés, les écrasent. C'est truc. Et t'as les salariés qui vont faire ça parce qu'il a envie d'avoir un impact sur la société, qu'il a envie de faciliter les choses pour les gens. Qu'il a envie de créer quelque chose de fun et de cool. Et ouais, c'est là-dessus, je pense, qu'il faut se bosser aussi. Mais, et l'autre chose sur laquelle je voulais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est que s'auto-former en tant que manager, c'est hyper important. Combien de fois j'ai dit à des collègues quand j'étais salarié, je comprends pas que ce patron ou tel manager soit aussi mauvais dans sa gestion de tel ou tel truc. Alors qu'on est en 2019, il suffit de prendre un bouquin, de l'ouvrir.
Ouais.
Tu as 50 000 bouquins qui te parlent de,
ouais, de management.
Management, etc. Alors, ils sont pas tous bons. Il faut faire le tri, il faut en lire plusieurs, c'est sûr. Mais je veux dire, trouver des bonnes idées aujourd'hui, c'est pas compliqué quand même.
Et en fait, tu vois, je vais même te dire un truc. Enfin, déjà, la première source d'information, c'est tes employés eux-mêmes.
Ouais.
C'est comment tu as envie d'être traité, en fait. Tu leur demandes, OK, c'est quoi la relation que tu veux qu'on ait? Et comment, pour toi, qu'est-ce qu'on devrait faire pour faire en sorte que cette relation, elle marche? Et enfin, moi, je me la suis posée, cette question, je leur ai posée. Je leur ai dit, OK, est-ce que typiquement, ce point du vendredi dont je te parlais, je leur ai demandé, OK, les gars, est-ce que c'est utile? Est-ce que vous voulez le garder? Est-ce que, en fait, vous voulez le faire péter parce que vous trouvez que ça sert à rien? Et voilà, et déjà, rien qu'en demandant aux gens dans la relation comment vous êtes, qu'est-ce que vous feriez pour améliorer le truc? Bah en fait, tu as déjà en partie la réponse de ton management, même sans aller lire dans des bouquins qui sont théoriques.
Ouais, clairement.
Donc, il y a déjà un peu d'observation de terrain et puis de travailler avec ton équipe et un peu comme dans n'importe quelle relation, s'assurer de trouver le bon compromis pour que les deux parties elles soient contentes. Quoi. Donc, et après, je suis complètement d'accord avec toi, qui est que je pense que la première étape, c'est d'être ouvert à la réflexion sur soi-même, ce qui n'est pas toujours facile.
Le fameux biais cognitif.
Voilà.
Je reviens, j'ai l'impression de toujours revenir dessus, mais c'est hyper important.
Mais faut être. Je pense qu'il faut être ouvert au feedback, faut être ouvert à la critique. Personne n'est parfait, tout le monde est perfectible. Et bon, bah, moi, mon but, c'est d'essayer tous les jours de me dire, OK, comment je pourrais être meilleur manager, leader demain. Donc, je pense que ça, c'est une première chose. Et puis après, bah. Ouais, faut être curieux. Nous, on discute souvent avec d'autres boîtes, d'autres startups, dire, OK, vous faites comment, vous faites quoi? Tiens, ça marche. Ah ouais, OK, bah, je vais tester ça. Tu peux lire, il y a des articles dans tous les sens. Il y a des vidéos dans tous les sens. Effectivement, il y a de la matière. Et il faut accepter d'y accorder un tout petit peu de temps. Mais c'est pour le bien de tous derrière, et soit pour soi-même en premier, quoi.
Mais non, mais c'est ça. C'est... Je parlais d'agilité tout à l'heure, je te disais que c'était l'amélioration quotidienne, c'est une des valeurs.
Ouais.
C'est l'intérêt de rétrospective quand on fait de l'agilité. C'est de faire un bilan sur ce qu'on a fait et d'améliorer pour la suite.
Ouais.
Et en plus, il y a des façons de le faire, parce qu'il y en a qui le font, mais ça marche pas, parce que le retour est pas bon. Parce que comme tu le dis, et franchement, bravo, parce que tout ce que tu dis fait clairement sens, et je l'entends trop peu dans la bouche des managers et autres patrons. Non, mais vraiment, voilà, on va croire que je dis ça parce que t'es mon invité, mais non, pas du tout. Ceux qui me connaissent savent que je suis pas très langue de bois. Et oui, prendre le retour direct auprès de tes employés, c'est hyper important. Et clairement, c'est hyper intéressant. Et du coup, tes salariés, quand tu leur as demandé est-ce qu'ils voulaient maintenir le rendez-vous le vendredi après-midi, t'ont dit oui en majorité.
Ils m'ont dit ouais. Enfin, en fait, tous les trois, ils m'ont tous dit ouais, je trouve ça super, gardons-le. Donc j'ai dit bon, bah, très bien, ça fait l'unanimité, tout le monde y voit de la valeur, on garde.
Ils sont combien aujourd'hui?
Alors, moi, dans cette équipe que je manage, ils sont 4.
Ok.
Et après, c'est pour ça que je te disais aussi dans ce côté de faut observer, faut voir ce que font les autres, faut pas se dire tiens, c'était pas mon idée initialement, donc je veux pas le faire. Par exemple, sur la partie tech de notre équipe, il n'y avait pas ce petit point du vendredi qui était fait parce qu'ils n'avaient pas lancé ça comme ça. Et en fait, comme nous, ça marchait bien sur la partie commerciale, ben, ils ont commencé à le faire sur la partie tech parce qu'ils y ont vu de la valeur aussi. Et tout naturellement, ils se sont dit, tiens, en fait, c'est cool, ça marche bien ce petit point individuel pour être sûr que tout va bien, que tout le monde est heureux, que... voilà. Et puis, ils l'ont mis en place aussi, tu vois. Et, ouais.
Désolé, aujourd'hui, t'as toi en CEO,
ouais.
Quentin, CEO.
Ouais, CEO. Sofiane
en créa.
Donc, le directeur artistique.
Ouais.
Ok. Kevin en CTO,
okay. Ouais. Qui était le premier dev mobile, je crois, que vous avez recruté.
Exactement.
Je m'en souviens.
Et qui est notre CTO fondateur, du coup, depuis.
D'accord.
Et après, bah, c'est ce split, les 9 salariés, entre l'équipe sales et l'équipe tech.
Ok.
Voilà, globalement.
Okay, d'accord. Et... Ouais, du coup, la question un peu piège, mais...
Vas-y, question piège.
Comment tu feras quand ils seront 20 dans l'équipe commerciale?
Bah, alors, je pense que le jour où on sera 20 dans l'équipe commerciale, il faut rajouter une petite tranche intermédiaire. C'est-à-dire qu'il faut rajouter du management... Du management intermédiaire, c'est-à-dire que moi, je ne pourrais plus m'occuper de 20 personnes. Donc après, faut voir, il faudra que je réfléchisse à la structure de l'équipe. On n'est pas non plus... Enfin, bien sûr, il faut anticiper les choses, mais je ne suranticipe pas à ce stade-là, parce qu'on n'en est pas encore là. Ce n'est pas mes problématiques d'aujourd'hui.
Puis, Pierre, tu viendras me voir.
Et voilà, je viendrai te voir. Et... Exactement. Tu viendras me donner des conseils. Mais voilà, je t'avoue qu'on anticipe beaucoup de choses. Et en même temps, je pense que le fait d'être entrepreneur fait que tu te poses des problèmes au jour J plus au jour J plus 1. Enfin, tu te poses quand ça arrive à proximité, mais on n'en est pas tout de suite à être à 20. Et à ce moment-là, je me poserai vraiment la question de l'organisation.
Ok. No. Fair enough.
Voilà.
Non, c'était la petite question pour t'embêter. Je fais toujours ça avec tout le monde. Je m'embête tout le monde.
T'inquiète pas.
C'est quoi la suite? Comment tu vois la suite de Canel? Si tu veux partager des trucs avec nous ou pas, si
ouais,
c'est top
bien
secret.
Sûr. Non, non, écoute, je pense que réussir à faire une grande boîte qui marche bien n'est pas top secret. Mais non, je pense que on marche bien, on a des clients qui sont contents. On est sur le marché français pour le moment. L'idée, c'est marcher encore plus, avoir encore plus de clients contents. Et puis potentiellement, aller voir ce qui se passe un peu à l'international aussi. Mais bon, on est encore en train de peaufiner notre stratégie. Là, on est déjà sur croissance sur le marché français pour vraiment devenir un gros acteur sur le secteur de la vidéo facile en entreprise, quoi.
Et donc, ok, tu veux monter sur des objectifs internationaux, etc. Est-ce que tu t'es fixé des chiffres précis où tu vas te dire, bon, là, quand j'ai atteint ça, ça y est, en sens international ou tel pays d'abord ou autre?
Ouais, bien sûr. On s'est fixé des milestones, quoi, tout simplement, à atteindre. Où on sait que, alors nous, dans notre business, on parle souvent de MRR, donc Donc c'est le Monthly Recurring Revenue. Donc en tout cas, l'idée, c'est combien te payent tes clients mensuellement. Mm-hmm. Et tu vois finalement mensuellement quel est le montant de revenus qui rentre dans ta boîte. Et ça, il n'y a pas trop de secrets. Il y a un peu des milestones assez connus dans le milieu des softwares. De, ok, à moins de temps, tu ne lèves pas. Entre temps et temps, tu lèves un seed, donc c'est-à-dire le premier tour globalement d'investissement dans la vie d'une startup. Entre temps et temps, tu lèves une série A. Et donc nous, on connaît bien ces chiffres-là. Et l'idée, c'est d'arriver à ces montants-là pour arriver à notre prochain tour d'investissement, s'il y en a un, quoi.
D'accord.
Voilà.
Ok. Petite question supplémentaire pour toi, qui est un peu plus du coup de l'ordre personnel. Mmh. Si tu devais te donner un conseil 10 ans en arrière, qu'est-ce que ce serait ?
Ouais. Alors, question, c'est une bonne question. Donc, ça reviendrait donc à mes 19 ans. Qu'est-ce que je me donnerais comme conseil ? Je pense que je continuerai sur l'entrepreneuriat. Et peut-être que les conseils que je me donnerais, c'est plus rapidement, dans l'écosystème start-up, en tout cas, si je me donne vraiment des conseils sur cette aventure entrepreneuriale, ça peut être plein de conseils dans ma vie, dans plein de choses, mais si je me concentre vraiment sur cette partie-là, c'est que je pense que au tout début, j'ai peut-être pas assez passé de temps dans l'écosystème startup, au sens où en fait il y a plein de choses à utiliser, comme ressort, comme aide, comme différentes choses. T'as plein de subventions que tu peux avoir, t'as plein de mentors que tu peux avoir, etc. Et je pense que ça, j'ai un petit peu tardé à le faire.
Comment tu trouves des mentors ?
En fait, il y a beaucoup de réseaux. Je pense qu'il faut se rapprocher effectivement d'incubateurs, de réseaux, tu vois, même via des meet-ups. Enfin, tu vois, tu connais bien le sujet. Mm-hmm. Mais il y a des meet-ups où c'est justement peut-être des rencontres de mentors et d'entrepreneurs. Il y a différentes choses. Moi, en ce qui me concerne, c'est via le réseau de mon école, donc via le réseau de l'EDEC. Et en fait, comme ils essayent de développer et que ça se développe très bien la partie entrepreneuriat, ils mobilisent le réseau pour trouver justement des mentors, te proposer des personnes qui veulent t'aider. Et encore, quand on dit mentor, c'est vraiment à titre gratuit, quoi. C'est des personnes qui passent de leur temps gratuitement pour t'aider sur des problématiques diverses. Et en fait, je pense que ça aide énormément. Après, il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre non plus. Mais il y a la partie mentorat. Et encore une fois, il y a tout ce que tu peux retirer du réseau français.
Tout ce que tu peux retirer du réseau français.
Tout ce qu'on peut retirer du réseau français. Il y a plein de choses à faire, plein de subventions. Un petit conseil un peu con, mais typiquement, quand on réfléchit à la domiciliation de son entreprise, si on ne sait pas et qu'on est parisien, on va se mettre à Paris. Et en fait, quand on est bien conseillé tôt dans la vie de son entreprise, on se rend compte qu'en fait, si on se domicilie soit en région parisienne, soit dans d'autres villes, etc., on peut beaucoup plus facilement bénéficier de subventions de coins où en fait...
Donc, parce qu'il y a beaucoup moins de demandes.
Il y a beaucoup moins de demandes. Et pour autant, ils ont autant de subventions qu'ils veulent donner. Et bon voilà, et c'est plein de petites choses comme ça qui font que pour autant, il ne faut pas procrastiner et ne pas se lancer. Mais assez rapidement, il faut se dire, ok, il faut admettre qu'on va faire des erreurs sur certains sujets. Mais assez rapidement, se dire, ok, soyons curieux, parlons à un maximum de personnes, partageons un maximum de tips... Et même quand on est au début, on a quand même des tips à partager. Ouais. Donc voilà, essayons au maximum de se nourrir de tout l'écosystème autour, parce que vraiment, ça peut éviter des erreurs. On ne les évitera pas toutes.
De toute façon, je ne sais plus quelle est la citation exacte, mais 9 fois sur 10, l'expérience bat la théorie, je crois. Il y a une citation comme ça, un truc.
Je suis bien d'accord avec toi.
Ton conseil, ce serait vas-y, lance-toi et parle. C'est ça.
Il ne faut pas trop attendre non plus, parce que de toute façon, quand on attend, je ne sais pas ce qu'on attend, parce que finalement, on n'aura jamais plus de certitude en attendant un an qu'en se lançant tout de suite. Mais c'est, ok, se lancer vite, agir vite, mais être capable de rectifier le tir très vite. Et pour ça, à mon avis, c'est bien sûr s'observer soi, se renseigner, etc. Mais aussi bah, bénéficier de toute la manne d'expérience qu'il y a autour de soi et pas avoir peur à aller à la pêche aux infos, quoi.
Ouais, des cycles itératifs courts ouais, pour vite corriger. Tiens, exactement. C'est encore une fois très agile. Tu connais le livre.
Je pense que nous sommes agiles aujourd'hui.
Ouais, bah, j'ai l'impression. Ok. Et écoute, c'est à peu près tout pour cette interview.
Très bien.
Carole, merci.
Merci
J'espère
à toi.
J'espère que Canel continuera à se porter bien et se portera de mieux en mieux.
Ben, on espère aussi, hein. On fait tout pour.
Écoute, je pense que vous êtes sur le bon chemin et tu es sur le bon chemin vu tout ce que tu nous as dit aujourd'hui. C'était très intéressant, je te remercie. Et puis pourquoi pas te retrouver dans le futur quelques temps pour voir un peu où tout ça en est.
Ben, avec plaisir.
Et merci à tous d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. À bientôt. Ciao, ciao. Et voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos remarques et vos retours sur Twitter. Je suis toujours à l'écoute et en recherche de feedback pour m'améliorer. Ciao, ciao, à la prochaine.